RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
L'émission en français avec Inès Azagra et Guillermo Brown.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue un jour de plus à l'émission en français sur Radio Extérieure d'Espagne. Aujourd'hui, nous vous proposons une activité culturelle car le prochain mardi 5 mars, la soprano française Nathalie Dessé débute au Festival Life Victoria avec un programme qui va de Clara Schumann à Debussy, accompagné du pianiste Philippe Cassard.
Et je travaille également pour l'année prochaine sur deux comédies musicales, Gypsy de Julie Stein et Sweeney Todd de Stephen Sondheim. Voilà. Donc, et plus sur un récital classique qui sera un peu... un récital d'adieu autour d'un programme franco-américain, voilà, du XXe siècle, de musique du XXe siècle.
Le festival commémore cette année la vie et parcours de la soprano espagnole Victoria de Los Angeles, avant Teresa Berganza et Montserrat Caballé. Victoria de Los Angeles est la première cantatrice espagnole à la carrière internationale après la guerre civile et la Seconde Guerre mondiale. Vous écoutez bien sûr les filles de Cadix, à la technique Javier López et au micro et dans vos oreilles Inés Azagra et Guillermo Bravo et à la production Cristina Dorado.
Tu n'as qu'à le dire, c'est ton rêve à toi. Passez votre chemin, mon sire. Passez votre chemin, mon sire. Figure de Cadix, n'entendons pas cela.
Radio Extérieure de España.
Passons au journal de l'actu sur Radio Extérieure Espagne.
Où que vous soyez.
Carles Puigdemont visé par une enquête pour terrorisme.
El president Puigdemont manté la seva agenda en totale normalitat.
La plus haute instance judiciaire espagnole a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête pour terrorisme contre le dirigeant indépendantiste catalan Carles Puigdemont, qui est en pleine négociation avec le gouvernement espagnol sur une loi d'amnistie pour des centaines de séparatistes.
Creo que nos corresponde desde el gobierno seguir insistiendo en dar una salida política a un conflicto, a un marco que ha habido en Cataluña y que es imprescindible resolver en lo político y desjudicializar. Y ahí nuestra tarea fundamental.
Sira Rego, ministro de Jeunesse et Enfants, souligne qu'il faut insister, il faut absolument donner une solution politique à un conflit qui doit être résolu. Tsunami démocratique est le nom d'une plateforme ayant appelé à protester contre la condamnation le 14 octobre 2019 de 9 dirigeants indépendantistes à la prison pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017. Des milliers de militants avaient notamment fait le blocus de l'aéroport de Barcelone ce jour-là. Outre M. Puigdemont qui a fui en Belgique en 2017 pour échapper à la justice espagnole, cette enquête vise également Ruben Wagensberg, un élu au Parlement régional catalan qui a également quitté l'Espagne il y a peu pour éviter des poursuites.
<t'en>
Tire sur un convoi d'aide à Gaza, von der Leyen, profondément troublé. Le président français Emmanuel Macron a exprimé vendredi sa plus ferme réprobation et exigé vérité et justice après la mort annoncée par le Hamas de plus de 110 personnes lors d'une distribution d'aide à Gaza. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a jugé jeudi inacceptables les événements qui ont conduit à la mort d'une centaine de personnes selon le Hamas lors d'une distribution d'aide alimentaire qui a tourné au cauchemar à Gaza. Álvarez souligne de nouveau qu'ils n'ont jamais autorisé l'envoi d'armes à Israël depuis le dernier 7 octobre 2023 et ceci continuera jusqu'à la fin du conflit.
Señoría, como es público, el gobierno de España no concede ninguna nueva licencia de exportación de armamento a Israel desde el pasado 7 de octubre. Lo he dicho.
Les condamnations se sont multipliées vendredi à travers le monde après une bousculade pendant une distribution d'aide alimentaire jeudi à Gaza, qui a tourné au drame et provoqué des scènes de chaos. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir avec plus de 30 000 morts à Gaza depuis le début du conflit selon ce ministère. 2,2 millions des 2,4 millions d'habitants de ce petit territoire assiégé par Israël sont menacés de famine d'après l'ONU. Ce drame, a reconnu le président américain Joe Biden, va compliquer les pourparlers en vue d'une trêve. L'Arabie saoudite a condamné la prise pour cible de civils sans défense par les forces d'occupation. La Ligue arabe a de son côté condamné dans les termes les plus forts un acte barbare et brutal qui méprise totalement la vie humaine. Le Qatar, l'un des principaux médiateurs dans la guerre, a appelé à une action internationale pour mettre fin immédiatement aux agressions. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réunie en urgence et à huis clos après que le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit choqué par le drame de jeudi et a plaidé pour une enquête indépendante efficace.
The Secretary General condemns the incident today in northern Gaza in which more than 100 people were reportedly killed or injured while seeking life-saving aid. The desperate civilians in Gaza need urgent help, including those in the besieged northern part of Gaza, where the United Nations has not been able to deliver aid for more than a week.
Le Kremlin a mis en garde contre toute manifestation non autorisée. Vendredi, l'équipe de l'opposant russe Alexei Navalny ayant appelé à des rassemblements pour ses funérailles auxquels se sont présentées des centaines de personnes à Moscou. Toute manifestation non autorisée constituera une violation de la loi, a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.
The public murder has once again showed everyone that Putin is capable of anything.
La veuve de Navalny déclare que Poutine est capable de quoi que ce soit. L'opposant russe et adversaire numéro 1 de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, doit être enterré vendredi dans un cimetière de Moscou après une cérémonie à l'église sous haute surveillance policière. Le défi était trop grand, toujours en quête d'un premier titre majeur. L'équipe de France féminine a subi la loi des champions du monde espagnol mercredi à Séville, en finale de la Ligue des Nations de 2-0, à 5 mois de l'objectif ultime des Jeux Olympiques de Paris.
Cet équipe no tiene techo, ya lo venimos demostrando. Mundial, la Nations, ahora por los Juegos, ¿no?
Une revanche colossale pour les joueuses de la Roja après des semaines de bras de fer contre les responsables du football espagnol et des années de lutte pour plus de reconnaissance de leur sport. Le réveil français n'a pas eu lieu et la partie s'est terminée sous les olés du public andalou qui a exulté au coup de sifflet final, prêt à célébrer une deuxième fois ses championnes.
Radio Exterior de España. Llegamos donde otros no llegan. Llegamos más lejos para estar más cerca de ti.
Au fil des ans, le mois de mars est devenu le mois de la francophonie, célébré dans le monde entier. Ainsi, diverses activités ponctuent ce mois que plus de 100 pays fêtent chacun à sa façon. La chronique de notre correspondante au Liban, Essa Yazbek Charabati. Bonjour.
Bonjour l'émission en français, bonjour à toutes et à tous. Chaque année, à la date du 30 mars, la journée internationale de la francophonie est célébrée dans le monde entier. Dans les pays francophones, mais aussi là où la langue française est moins répandue. Au fil des ans, en mars, la journée est devenue le mois de la francophonie. Au Liban, la francophonie est donc mise à l'honneur durant le mois de mars à travers un programme riche d'activités aussi bien littéraires que musicales ou artistiques. Ainsi, les instituts culturels, les universitaires et la société civile montrent une francophonie ouverte, vivante, plurilingue et attractive. Parmi les moments clés, le choix Goncourt de l'Orient sera proclamé le 6 mars, comme l'a annoncé le directeur régional de l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, Jean-Noël Baléo. Cet événement rassemble des étudiants d'une trentaine d'universités de 11 pays du Moyen-Orient. La proclamation du prix aura lieu en présence de Paul Constant, romancière, membre de l'Académie Goncourt. Atelier d'écriture, rencontres littéraires, championnats de débat francophones, conférences et même tournois sportifs se succéderont tout au long de ce mois. Les activités seront ouvertes au public, ainsi que des séances spécifiques de sensibilisation, des conférences thématiques et des concours seront proposées aux jeunes participants. Histoire de respirer une bouffée d'oxygène dans un pays tendu par les bombardements israéliens au Liban Sud et les affres de la guerre à Gaza qui n'en finit pas de faire des victimes depuis le mois d'octobre. Elsa Yazbek Charabati pour l'émission en français Radio Exterior de España.
Bonjour à tous et à toutes, nous sommes aujourd'hui avec Francisco Blay Villa, maître éventailliste du musée MUPA. Donc bonjour déjà et merci d'accepter notre invitation. La première question, c'est quelle est la spécialité du musée MUPA, donc le Museo del Palmito de Aldaya. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire familiale du musée?
Oui, la spécialité est l'éventail. Il s'agit du seul musée sur le thème de l'éventail, du moins en Espagne. Trouve une grande collection couvrant toutes les époques jusqu'à nos jours, ainsi que des machines et des matériaux fournis par des fabricants locaux.
Mmh. Et quelles sont les pièces les plus uniques que vous avez au musée?
Nous avons reçu des pièces de tous les siècles et de tous les pays, avec tout type de matériaux utilisés dans la fabrication de l'Antiquité à nos jours. Parmi les pièces contemporaines, on trouvait des éventails en nacre fabriqués dans notre atelier, ainsi qu'une représentation complète de tous les styles anciens et d'éventails fabriqués à Aldaya au cours de l'histoire en tant que représentation locale.
Mmh. Et d'où vient votre intérêt et amour vers l'art de l'éventaillerie?
Par tradition familiale, hérité de notre grand-père qui l'a initié et de notre père qui a élargi ses connaissances en voyageant à Paris et en devenant le premier fabricant en Espagne de montures de nacre.
Mmh. Impressionnant. Qu'est-ce que vous avez appris durant votre séjour en France pendant votre jeunesse?
Notre père a appris à mairie, dans le département de l'Oise, France, le métier auprès des derniers tabletiers éventailistes avec les techniques et méthodes anciennes. Il nous l'a ensuite transmis et nous avons appris la fabrication complète ainsi que la restauration. Ainsi, dans notre atelier, nous fabriquons et restaurons des éventails de toutes les époques et de tout matériaux.
Mmh. Vous êtes les seuls à continuer à fabriquer de zéro des éventails en nacre. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur le sujet?
Dans notre atelier, nous fabriquons les éventails de A à Z, de la coquille de nacre ou du tronc en bois, jusqu'à la finition. Ce métier implique de nombreux travaux réalisés dans différents ateliers. Et l'une de nos particularités est de toutes les regrouper dans un même atelier. La connaissance de leur fabrication complète implique également de maîtriser leur restauration, parfois nécessaire pendant le processus de fabrication en razón de la délicatesse, fragilité des pièces.
Mmh. Et qui va continuer votre tradition après vous?
Notre souhait est que la quatrième génération, l'une de nos enfants, puisse la poursuivre, car les temps sont très difficiles pour l'éventail et a besoin d'une reconnaissance et d'une aide institutionnelle accrue.
Et quel est l'impact à un niveau écologique et environnemental?
L'impact environnemental est nul, car il est d'origine naturelle et cultivé. Tous les matériaux et méthodes utilisés sont durables pour l'environnement.
Quels sont les types de clients intéressés par ces éventails? Plutôt, c'est des clients particuliers, des collectionneurs?
Oui, en restauration, principalement des particuliers et des antiquaires. Tandis que la fabrication est destinée à les commerces importants comme à Madrid, Sevilla, ainsi que des collectionneurs particuliers.
Mmh. Merci beaucoup pour votre participation, Francisco Blay Villa, du musée MUPA de Aldaya. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
Radio Exterior de España. Por el mundo contigo. Siempre cerca de ti.
Était-ce l'hiver qui coulait de ses yeux? Ce salaud d'hiver, il éteignait le feu qui courait hier encore dans ce corps soudain là figé en bloc de pierre.
Bonjour Nathalie Dessé, merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission En français. Nous sommes ravis de vous avoir à l'autre bout du téléphone. Bonjour.
Merci et bonjour.
Vous allez participer au Life Victoria, Lied Festival Victoria de Los Angeles, accompagné du pianiste Philippe Cazard, le prochain 5 mars à Barcelone. Alors comment vous sentez? Préparée pour cette date?
Bah écoutez, je suis préparée pour cette date dans la mesure où c'est un programme qu'on a beaucoup chanté. On a fait au moins 10 ou 12 concerts avec ce programme. Donc, même si je suis dans autre chose en ce moment, parce que je prépare déjà le programme de l'année prochaine, c'est un programme que j'aime beaucoup et que j'ai toujours plaisir à chanter.
Mmh.
Donc, voilà, parce que ça s'appelle donc Paroles de femmes, parce que en première partie, il y a trois compositrices qui sont mises à l'honneur, donc Clara Schumann, Fanny Mendelssohn et Alma Mahler. Et en seconde partie, bon, évidemment, ce sont des femmes qui s'expriment, mais bon, parce que il se trouve que je suis soprano, donc effectivement, les rôles, que ce soit en opéra ou en mélodie, bon, on a fait en sorte que ce soit des femmes qui s'expriment.
Mmh. Alors, le récital, c'est le 5 mars à Barcelone, et c'est aussi une occasion de rendre hommage à Victoria de Los Angeles, une autre soprano espagnole. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots?
Bah, je la connais pas très bien en vérité. Je sais que ça a été une cantatrice très éminente des années 50-60, de manière internationale d'ailleurs. Je crois savoir aussi qu'elle a chanté du Mozart et des choses que moi aussi je chante. Donc voilà, j'étais très très flattée qu'on m'appelle pour rendre hommage à une chanteuse, voilà, qui a été importante pour la lyrique.
Mmh. On va essayer de rentrer en matière dans ce récital, dans ce programme. Pour moi, d'interviewer une soprano comme vous, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Donc désolée s'il y a des questions qui peut-être je me pose assez simples. Mais vous allez interpréter, d'après ce que j'ai lu, « Mes longs cheveux » de Péléas et Mélisande, de Debussy à « Je ris de me voir si belle » de Faust de Gounod. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette interprétation? Quelles sont les caractéristiques à tenir en compte? Est-ce que ce sont des interprétations compliquées et difficiles pour vous en tant que soprano?
Pour ce qui concerne Péléa, c'est plus un clin d'œil que l'autre chose, parce que l'air en question, il dure 2 minutes.
Mm-hmm.
Comme il n'y a pas d'air dans Péléa et Mélisande, c'est vraiment comme une grande conversation, enfin des conversations entre les gens. C'est vraiment un tout petit extrait, parce que voilà, il se trouve que j'ai chanté Mélisande et que je trouvais que c'était un moment très beau chez Debussy. Mais c'est vraiment un clin d'œil. Ça pourrait être un bis presque, tellement c'est court, en fait. Et pour ce qui concerne Marguerite de Faust, bon, c'est un rôle que je n'aurais pas pu chanter à la scène parce que c'est un rôle assez grave pour une voix plus grande que la mienne, mm-hmm. avec un orchestre assez fourni. Mais là, avec le piano, je peux me permettre de le chanter parce que je le chante plus comme une grande mélodie, en fait. Pareil pour le Cid de Massenet, qui est normalement un air pour un grand soprano, que je ne suis pas. Mais encore une fois, avec le piano, on peut se permettre d'interpréter des airs qu'on n'aurait pas pu faire à la scène normalement.
Au piano, accompagné de Philippe Cassard, il faut le dire.
Absolument. Avec qui je travaille depuis plus de 10 ans maintenant et avec qui je fais tous mes récitals.
Mmh. C'est ce que je me demandais, Philippe Cassard. Il me semble que ça a été votre pianiste depuis des années.
Mmh. Mmh. Absolument. Et c'est lui qui est venu me chercher jadis avec des inédits de Debussy. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés autour de Debussy. Et c'était aussi pour ça que on voulait mettre un petit moment de Debussy dans ce récital.
Mmh. Vous l'aviez dit au début de l'interview, mais il y a Mendelssohn, Clara Schumann, Alma Mahler. Quels sont les traits en commun entre ces trois femmes? Quelles sont les difficultés que vous trouvez dans ces œuvres? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu?
Non, ce que je peux te dire, c'est pourquoi je les ai choisies. C'est-à-dire que elles sont toutes les trois attachées de très près à des grands musiciens dont on connaît bien la musique. Mmh. Et elles ont été un peu invisibilisées en tant que compositrice. C'est-à-dire que Fanny Mendelssohn, c'est la sœur de Félix, qui certes était un génie, mais qui a été largement préférée dans sa famille, qu'on a promue beaucoup plus qu'elle. Et je voulais lui rendre un peu justice parce que c'était aussi une formidable musicienne qui a écrit elle aussi de très très belles mélodies. Pareil pour Clara Schumann qui elle était très connue en son temps comme grande pianiste, grande concertiste internationale, mais qui est peut-être moins connue comme compositrice par rapport à Robert Schumann. Et c'est vraiment dommage parce qu'elle écrit magnifiquement. Et pour ce qui est d'Alma Mahler, alors là, c'est encore plus incroyable parce qu'elle n'est pas tellement connue pour être une compositrice, alors que c'est une musicienne accomplie et qu'en en fait, elle n'a pas beaucoup écrit et que beaucoup de ses œuvres ont disparu. Parce qu'à partir du moment où elle s'est mariée avec Mahler, il lui a dit « Écoute, maintenant, ton boulot, c'est de t'occuper de moi. »
Et en plus, l'histoire d'amour avec Kokoschka.
Donc, sous-entendu, oui, mais je veux dire, voilà, oui. Elle a été mariée, enfin, elle a eu une vie assez riche, disons. Ouais. Mais en tout cas, elle n'a pas vraiment pu s'exprimer en tant que compositrice non plus, alors que là aussi, ne serait-ce que par le choix des poèmes et puis la façon dont elle écrit pour le piano et la voix, je trouve qu'elle mérite qu'on la célèbre, elle aussi.
Mmh. Elles étaient toutes les trois compositrices pendant la même époque ?
Ah non, Alma Mahler, c'est plus tardif. Mmh. C'est plus tardif. Alma Mahler, c'est plus... Ça va plus vers le début du XXe siècle.
Mmh, me semblait bien. En deuxième partie, comme vous l'aviez dit aussi avant, nous pouvons trouver du Claude Debussy, Ernest Chausson, Charles Gounod. Qu'est-ce que vous vouliez évoquer dans cette
Poulenc,
deuxième
aussi, La Dame
oui.
de Monte Carlo.
Oui,
La Dame
sûr.
De Monte Carlo, c'est aussi une grande mélodie de Poulenc. C'est un texte de Jean Cocteau. Mais j'adore ce personnage de La Dame de Monte Carlo, qui est une femme qui joue. Et qui, bien sûr, comme tous les joueurs invétérés, perd, et qui va finalement décider de se suicider dans l'eau de la Méditerranée. Mm-hmm. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on chante pas souvent parce que c'est assez long et pour une mélodie. Voilà, on n'est pas souvent dans les programmes et je trouve ça dommage aussi.
Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau.
Comme un manège de lune.
Nous sommes en train d'écouter la toute récente collaboration avec le chanteur et compositeur Michel Legrand, appelé Les Moulins de mon cœur. Comment a été cette expérience, Nathalie ?
Ça, c'était assez génial, il y a quelques années déjà, hein, puisque Michel nous a quittés il y a maintenant quelques années. Et donc, c'était le premier disque qu'on faisait ensemble. On en a fait deux, puisqu'il a terminé de composer pour moi une espèce d'oratorio qui s'appelle toujours Between Yesterday and Tomorrow et qui fait l'objet de notre seconde collaboration au disque. Et j'ai eu la chance de le côtoyer pendant plusieurs années, de faire des concerts avec lui à travers le monde et de chanter ses chansons que j'adore depuis que je suis toute petite. Donc c'était un rêve que je n'avais même pas osé faire et qui s'est réalisé. Voilà.
D'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Et Nathalie, est-ce que vous continuez à faire du théâtre ?
Ah bien sûr, je ne fais même que ça, quasiment.
Combien de théâtre il y a dans l'interprétation ? Comment ça ?
Ah non, c'est pas le même métier, non, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir ?
Je veux dire, non. C'est pas la même chose. Chanter de l'opéra, c'est une chose. Chanter des chansons, c'est une autre chose. Et faire du théâtre, c'est encore une autre chose. Donc là, en ce moment, je viens de terminer une série d'Impresario de Smyrne de Goldoni à Bruxelles. Et on va le reprendre à Paris au mois d'avril, fin avril, début mai. Et entre-temps, en mars, je vais jouer un texte de Marine Diaye qu'on a créé l'année dernière à Strasbourg, qui s'appelle « Un pas de chat sauvage ». Et je travaille également pour l'année prochaine sur deux comédies musicales, « Gypsy » de Julie Stein et « Sweeney Todd » de Stephen Sondheim. Voilà. Donc, et plus sur un récital classique qui sera un peu un récital d'adieu autour d'un programme franco-américain. Voilà, du XXe siècle, de musique du XXe siècle.
Et comment est ce switch entre la soprano et la comédienne ? Comment vous vous sentez plutôt comédienne que musicienne soprano ?
Ah, mais moi, je me suis toujours sentie comédienne. J'ai fait de l'opéra parce que je voulais jouer des personnages. Et que comme j'avais une voix, il m'a semblé plus... Enfin, il me semblait que ça allait être plus facile d'aller sur scène en chantant. Que simplement en parlant. Donc c'est pour ça que j'ai fait de l'opéra. Mais moi, je voulais pas spécialement chanter. Je voulais jouer. Donc j'ai même commencé par le théâtre quand j'avais 18 ans.
Ah, donc vous êtes tombée un peu sur votre partie soprano un peu par hasard. Ça n'était pas du tout le
complètement
but du jeu,
par hasard. Et j'ai fait un détour de 30 ans, mais je suis revenue là où je voulais aller, c'est-à-dire au théâtre.
Un grand zigzag. Donc maintenant, vous êtes beaucoup dans les théâtres et je voulais finir cette petite discussion sur cet adieu aux scènes prévu pour 2025. C'est un adieu en tant que soprano, je comprends.
Oui, c'est disons un peu un adieu à la musique classique parce qu'en fait, pour arriver à se maintenir à un certain niveau en musique classique, il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, ce que je fais en ce moment. Je me suis vraiment bien remise en forme pour tous ces récitals. Donc, je suis contente parce que c'est grâce au confinement, en fait, que j'ai retravaillé de fond en comble ma voix classique. Mais à partir de 2025, j'ai vraiment envie de me consacrer à la chanson et à la comédie musicale. Et là, c'est encore une autre technique qu'il faut apprendre. Et je voulais vraiment me concentrer sur cette nouvelle façon d'utiliser la voix.
Merci beaucoup, Nathalie Dessé, de 5 mars à Barcelone, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Mais c'est moi qui vous remercie. Très bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, chers auditeurs et auditrices, d'être à l'écoute. On se retrouve mardi. À très bientôt, toujours sur Radio Exterior d'Espagne.